La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Eh bien bonjour à tous et à toutes. Je suis Patrick Saporito, faisant partie de l'équipe des responsables de l'église baptiste de Toulouse Métropole, EBTM. J'aimerais vous demander comment allez-vous aujourd'hui ? Le soleil s'est levé comme à son habitude, la Terre continue de tourner. Mais comment va-t-elle notre Terre, notre planète ? Pas très bien, à vrai dire. Le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat missionné par l'ONU, a rendu un rapport alarmant en septembre dernier qui dit qu'une montée des eaux menace des pans entiers de la planète avec la fonte des calottes glaciaires 2,5 fois plus rapide qu'au XXe siècle. On assiste à des cyclones et des typhons de plus en plus destructeurs, sans forcément être plus nombreux. Moins de pluie, mais lorsqu'elles tombent, elles sont diluviennes. On observe des canicules de plus en plus régulières. On a tous en mémoire l'incendie récent de la forêt d'Amazonie, le poumon de la planète, et plus récemment les incendies dévastateurs en Australie. On assiste à l'apparition d'un sixième continent, celui du plastique. Certaines espèces animales sont en voie de disparition et d'autres déjà éteintes. Les experts confirment que ce réchauffement climatique et la montée des eaux qui l'accompagnent est irréversible, qui, à défaut d'être stoppé, peut être freiné avec une réduction des gaz à effet de serre, mais catastrophique s'il atteint les 2 degrés d'ici 2050. Il faut donc s'attendre à de fortes migrations dues au climat. Depuis 30 ans, presque rien n'a été fait, il faut bien le reconnaître, face au réchauffement climatique. Alors ce sont les petits, plus que les grands de ce monde, les jeunes qui s'inquiètent pour leur avenir, qui ont tiré la sonnette d'alarme. On pense bien sûr à Greta Thunberg, cette jeune Suédoise. Y a-t-il encore de l'espoir ? Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là ? Eh bien, pour répondre à ces questions, je vous propose de revenir au commencement du monde. Mais personne n'était là pour nous dire comment ça s'est passé, sauf le Créateur. Le tout premier verset de la Bible nous dit, en Genèse chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Fin de citation. Alors tout l'enjeu pour l'homme est de croire ou pas à ce premier verset de la Bible, parce que si on y croit, on ne peut que croire à la Bible tout entière en tant que parole de Dieu. Je vais lire tout le chapitre 1 du livre de Genèse jusqu'au chapitre 2, verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit, et la lumière fut ». Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit « Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux ». Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue « ciel ». Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit « Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. » Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec « terre », et il appela l'amas des eaux « mer ». Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit « Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit, « Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. » Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit « Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. » Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Jusqu'ici notre lecture de la parole de Dieu. La première question qui nous vient est celle-ci, pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Eh bien la réponse est que Dieu a créé le monde pour l'homme et l'homme a été créé pour Dieu. Je vous propose de voir cette vérité en trois points. Premièrement, nous verrons que la création témoigne de la bonté de Dieu pour l'homme. Deuxièmement, nous verrons le mandat de Dieu pour l'homme envers la création et l'échec de l'homme dans ce mandat. Et troisièmement, nous verrons comment le retour à Dieu est possible. Voyons donc premièrement la création qui témoigne de la bonté de Dieu pour l'homme. Le livre de Genèse nous révèle les origines du monde visible, que tout œil peut voir, qu'on soit croyant ou pas. Il nous apprend que notre monde n'est pas le fruit du hasard, mais le travail d'un créateur, Dieu, qui est donc forcément au-dessus de sa création dont nous faisons partie. C'est fondamental pour avoir une vision vraie et juste du monde. La création visible renvoie à celui qui l'a faite, au créateur invisible, et nous révèle quelques aspects de son caractère. Le verset 2 nous dit que la terre était informe et vide, tohu bohu en hébreu, expression bien connue qui évoque le désordre, le chaos. Et Dieu, en parfait architecte et artiste, va en faire une habitation magnifique pour l'homme. Certains ont besoin d'arguments logiques et scientifiques, visibles et mesurables pour croire en Dieu. Eh bien, en voici quelques-uns qui font réfléchir. Vous remarquerez que Dieu ne crée la végétation que le troisième jour, après avoir créé les éléments indispensables à la vie, c'est-à-dire la lumière le premier jour, l'atmosphère le deuxième jour, et après avoir séparé la terre ferme d'avec l'eau le troisième jour. La science a conclu dès le 19e siècle que les mers recouvraient approximativement les deux tiers de la surface du globe, ce qui laisse un tiers pour la terre. Écoutez ce que dit le livre d'Ésaïe dans la Bible, écrit des centaines d'années avant Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 40, verset 12, je cite « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure ?» Fin de citation. Le quatrième jour, Dieu a placé les étoiles dans le ciel, comme il l'a voulu, verset 17. Si la terre était un peu plus éloignée du soleil, la vie ne serait pas possible, il ferait trop froid. Si elle était un peu plus près du soleil, la vie ne serait pas possible, il ferait trop chaud. Le cinquième jour, après avoir dressé le décor des quatre premiers jours, eh bien Dieu place les acteurs sur mer et dans les airs, c'est-à-dire les poissons et les oiseaux. Le sixième jour, Dieu place les acteurs sur terre, à commencer par les animaux. Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi Dieu a-t-il créé les animaux? Quelqu'un de non-croyant qui aime les animaux m'a dit un jour, s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que vous avez remarqué que les enfants s'intéressent beaucoup aux animaux? Ils ont un regard sur eux parfois plus émerveillé et bienveillant que le nôtre, et aiment jouer avec eux, en vrai mieux qu'avec les peluches. Et si Dieu avait créé les animaux pour les enfants? Ce même sixième jour, Dieu termine sa création par son chef-d'œuvre, l'homme et la femme, qu'il bénit. Puis Dieu lui-même a placé l'homme dans un jardin appelé Éden qui signifie « délice, plaisir ». Je cite Genèse chapitre 2, verset 8. « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Fin de citation. Le monde a donc été fait pour l'homme, comme un cadeau que Dieu nous avait préparé. Et l'homme a été fait pour Dieu, pour qu'on lui rende grâce, par le langage, ce que n'ont pas les animaux. Après avoir placé l'homme et la femme dans le jardin, Dieu leur confia un travail, un mandat. Quel est-il ce mandat? Abordons maintenant notre deuxième point, ce mandat de Dieu pour l'homme envers la création et l'échec de l'homme dans ce mandat. Eh bien, ce mandat était de se multiplier, de remplir la terre, de l'assujettir et de dominer sur les animaux, verset 28. Mais attention, il s'agissait d'une domination bienveillante, d'autant plus que l'homme ne devait se nourrir que des produits de la terre, verset 29 et 30. Et ne devait pas tuer les animaux qui, eux, devaient se nourrir d'herbe. Concernant le jardin, l'homme avait reçu le mandat de le cultiver et de le garder. Chapitre 2, verset 15. Dieu attache donc de l'importance à la faune et à la flore qu'il a créée et avait confié à l'homme la mission d'en prendre soin. L'homme représente Dieu sur terre et représente la création devant Dieu. Nous ne sommes pas propriétaires de la création, juste des gérants, ce qu'a oublié ou ne sait pas l'homme sans Dieu. D'où vient cette catastrophe écologique qui frappe notre planète? De vouloir gérer la création de Dieu sans Dieu. Il est dit que Dieu se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite le septième jour. Pourtant, Dieu ne se fatigue pas, il n'a pas besoin de se reposer. Étrange, vous ne trouvez pas? Et si la construction du récit de la création en six jours de travail, avec le septième comme jour de repos, était un modèle à suivre pour l'homme? De même que Dieu à regarder tout ce qu'il avait fait pour pouvoir dire « tout était très bon », eh bien, il nous invite à arrêter notre travail régulièrement, déjà pour nous reposer, et aussi pour considérer le travail accompli, en tirer satisfaction dans le but de lui rendre grâce et de l'adorer. On ne doit donc pas voir le travail comme une fin en soi, ni une malédiction, ni une corvée, mais un service rendu à Dieu. Ce mandat divin, s'il est respecté, donne un sens à la vie de l'homme, honneur, dignité, épanouissement, et le responsabilise. Mais le problème est qu'il n'a pas été respecté. Par exemple, la loi mosaïque prévoyait une année sabbatique tous les 7 ans pour permettre à la terre aussi de se reposer, en Lévitique chapitre 25 verset 4. Problème, la terre est essoufflée. Une agriculture intensive ne l'a pas laissée se reposer. La Bible elle-même dit qu'il y a un temps pour tout en Ecclésiaste chapitre 7 verset 1. À vouloir tout faire en même temps pour gagner du temps amène à la confusion et le travail est moins bien fait que lorsqu'on commence et achève une tâche à la fois, vous ne trouvez pas? Dieu aurait très bien pu tout créer en un seul jour, il en a le pouvoir, mais il n'a pas procédé ainsi. Pourquoi? Pour nous laisser un modèle. Aussi, d'avoir créé le monde en 6 jours nous montre que Dieu est un Dieu d'ordre. Il a créé le monde de façon distincte et méthodique, selon un ordre précis et chronologique, par séparation pour ce qui est de la lumière et des ténèbres, et de la mer et de la terre, et selon son espèce pour les végétaux et les animaux. Cet ordre de la création contient une perspective morale de ne pas tout mélanger. Sinon, il y a confusion entre le bien et le mal, entre l'homme et la femme, entre l'homme et l'animal, parce qu'on enlèverait Dieu, le créateur, de l'équation. Et on voit bien quelle confusion règne aujourd'hui sur notre planète. La création malade ne fait que confirmer que l'homme a échoué dans son mandat divin. L'homme n'a pas su reconnaître toute la bonté de Dieu dans la création qu'il avait faite pour lui. Il ne lui a pas rendu grâce. Le péché est de douter de la bonté de Dieu, ce qu'ont fait Adam et Ève en désobéissant au seul commandement que leur avait donné Dieu de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi Dieu leur a-t-il donné ce seul commandement ? Pour montrer que notre bonheur et la vraie liberté sont dans la dépendance à Dieu. En désobéissant, l'homme a acquis son indépendance, mais à quel prix? Non seulement au prix de sa vie, mais il a entraîné avec lui la chute de toute la création. Le sol a été maudit, le travail devenu pénible pour tirer sa nourriture, et notre planète est bien malade au final. Dieu avait placé chaque élément de sa création au bon endroit, là où il l'a voulu. Le péché a déséquilibré, détruit même cet ordre. Séparé de Dieu, tout perd sa place. Le péché est synonyme de désordre. Et moralement, à vouloir être comme Dieu, l'homme est descendu parfois plus bas que l'animal dans sa relation avec son prochain, alors que Dieu l'a créé à son image, supérieur à l'animal. Nous sommes tous des rescapés d'une catastrophe universelle, le déluge, que Dieu avait envoyé en jugement et qui était un retour au chaos, plus de séparation des eaux dans le déluge. Dieu avait demandé à Noé de mettre dans l'arche un couple de chaque espèce parce qu'il voulait les préserver. Aujourd'hui, nous assistons à une disparition des espèces. Dieu a promis qu'il n'enverrait plus le déluge, car ça n'a pas enlevé la méchanceté dans le cœur de l'homme. La création, qui pourtant pointe vers Dieu et témoigne de sa bonté, n'a pas suffi à ce que les hommes se tournent vers lui. Le cœur de l'homme reste incurable et a besoin d'être changé. Quelqu'un ne va pas demander pardon simplement en observant la beauté de la création. Il fallait donc une nouvelle révélation de Dieu pour rendre possible un retour à Dieu. C'est ce que je vous propose de voir dans ce troisième point, comment le retour à Dieu est possible. La création est bien un événement historique. Adam est bien un personnage historique. La chute, l'entrée du péché dans le monde, est bien un événement historique. Il fallait donc un autre personnage et un autre événement historique pour y répondre. Lesquels ? Eh bien, voici comment commence le Nouveau Testament. L'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 et 2, nous lisons, je cite, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Fin de citation. Le premier verset du Nouveau Testament fait écho au premier verset de l'Ancien Testament, en débutant par « au commencement ». Nous apprenons que celui qui a créé le monde est appelé la parole de Dieu. Il s'agit de Jésus, le Fils de Dieu. Né sur terre, mort sur la croix et ressuscité pour nous pardonner et nous racheter de la destruction. Le péché veut nous rendre indépendants de Dieu. L'Évangile nous invite à revenir à Dieu dans la foi en Jésus et la repentance, et à dépendre de lui. Alors, face à l'état de notre planète, le non-croyant peut avoir deux attitudes possibles. Soit se dire, puisqu'il n'y a plus d'espoir, eh bien mangeons et buvons, car demain nous allons mourir. Ce qui conduit à un mépris des lois, à une hausse de l'immoralité, et finalement à sa propre perte. Ou bien, autre possibilité, se tourner vers Dieu par Jésus-Christ, notre seul et unique bouée de sauvetage. Jésus, de qui l'Église est appelée à rendre témoignage. En Christ, il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux, nous dit la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 13. Voilà un encouragement à se tourner vers Christ, la seule sécurité qui vaille tant qu'il est temps. Et puisque cet ancien monde aura une fin, est-ce que ça veut dire que le premier mandat de prendre soin de la terre n'a plus cours ? Non, il court encore, tant que cette terre subsistera, même si les effets du réchauffement climatique sont irréversibles. Peut-être vous sentez-vous petit pour freiner la dégradation de notre planète. Mais rappelons-nous que ce sont des gouttes d'eau qui font les océans. Ne disons pas « je ne peux rien faire à mon niveau ». Déjà, un comportement à la fois chrétien et citoyen est possible, par des petits gestes mais qui font la différence si tout le monde s'y met. Par exemple, faire le tri sélectif, utiliser les mêmes plastiques de conservation et les laver plutôt que d'en changer à chaque plat. Aussi, le retour du vrac, un marché en pleine expansion, vous permet de venir faire vos courses avec vos propres récipients pour lutter contre le gaspillage des emballages. Pour économiser l'eau, si précieuse et indispensable à la vie, coupons le robinet pendant la douche. Des petits gestes simples, mais qui multipliés par des millions peuvent sauver des vies. Alors pour conclure, voici une citation du réformateur Martin Luther. Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier.
La terre qui nous porte, toujours fidèle au poste, n'est pas encore morte, des suites de ses blessures. La terre nous importe, nous partageons son sort. Alors faisons en sorte de respecter la nature. Elle souffre, elle souffre, la création entière, comme une femme en travail, secousse, angoisse, aspiration à la délivrance. Elle souffre, elle souffre, le bateau qui nous porte n'atteindra aucun port. Si des foules s'abordent pour clore l'aventure, cette terre est notre hôte, recélant des trésors. Mais c'est par notre faute qu'elle connaît la souillure. Elle souffre, elle souffre, la création entière, comme une femme en travail. Angoisse, aspiration à la délivrance. Elle souffre, elle souffre. Les humains sont les ennemis de leur environnement. Égoïste insoumis depuis l'aube des temps. Ça ira toujours de travers sur la surface de la terre tant qu'on restera en guerre. De l'univers, l'inconscience et la folie feront sauter la planète si la haine et la furie ne les devancent pas. C'est pourquoi il est prédit une nouvelle terre où la justice habitera. C'est la même maladie qu'ont les hommes et leur planète, jusqu'au jour où Dieu interviendra. Mais en attendant, elle souffre, elle souffre. La création entière, comme une femme en travail, secousse, angoisse, aspiration à la délivrance. Elle souffre.